suggestions de lecture. Notre bouillon de lecture d'été pour découvrir Ray Bradbury et ses chroniques martiennes. Donc après la nouvelle que nous a lu Hervé la semaine dernière, pleine de délicatesse et de bon goût.
Un peu sexiste, il faut dire les mots. Hein.
Un peu sexiste. Vous allez nous lire aujourd'hui.
Eh bien, on va faire un saut dans le temps. C'est une nouvelle qui se passe 20 ans plus tard, à peu près.
Ça oui, se parce passe que la semaine 2026. Dernière, on était en 2005, ça, voilà. Et là, ça va se passer
en 2026. Août 2026. Hein, ça se fête.
On y est
août.
Presque.
On y est. Le pique-nique d'un million d'années. Maman suggéra qu'une partie de pêche ferait peut-être plaisir à toute la famille. Mais ce n'était pas l'idée de maman. Timothy le savait. C'était l'idée de papa et maman se contentait de la lui répéter. Papa éparpilla sous ses pieds un tas de cailloux martiens et acquiesça. Aussitôt, ce fut une bousculade, un tumulte de cris. En un clin d'œil, le campement fut jonché de capsules et de boîtes métalliques. Maman enfila un survêtement de sport, papa bourra sa pipe avec des doigts tremblants, les yeux fixés sur le ciel de Mars, et les trois garçons s'empilèrent en glapissant dans le canot à moteur. Seul, Timothy ne quittait pas des yeux papa et maman. Papa poussa un bouton. Un ronflement s'éleva dans le ciel, l'eau bouillonna, le canot pointa le nez en avant et la famille s'écria « Hurrah !» Timothy, assis à l'arrière du bateau, ses doigts fluets posés sur la main velue de papa, regardait filer l'eau du canal et s'éloigner l'endroit désertique où ils avaient atterri dans leur petite fusée familiale venue tout droit de la terre. Il se rappelait la soirée qui avait précédé leur départ, l'agitation, la hâte fébrile. La fusée que papa avait trouvée, on ne savait où ni comment, la discussion à propos de vacances sur Mars. C'était bien loin pour aller en vacances, mais Timothy ne dit rien à cause de ses petits frères. Ils étaient arrivés sur Mars et maintenant, pour commencer, du moins c'est ce qu'ils disaient, on allait partir à la pêche. Papa avait un drôle de regard, tandis que le canot glissait sur le canal. Un regard que Timothy ne comprenait pas. Une lumière brillante et une sorte de soulagement s'y mêlaient. Et ses rides profondes avaient l'air de rire plutôt que de s'inquiéter ou de pleurer. La fusée qui refroidissait disparut là-bas derrière une courbe de la berge. « On va loin ?» Robert plongea la main dans le canal. On eût dit un petit crabe frétillant dans l'eau violette. « 1 million d'années, » dit papa dans un soupir. « Mince !» dit Robert. « Regardez les petits !» Maman tendit un long bras souple. « Une ville morte !» Ils ouvrirent des yeux brillants de plaisir anticipé. La ville morte gisait là, pour eux seuls, assoupie dans le silence brûlant d'un été créé sur Mars par un dieu des saisons martien. Et papa regardait la ville et semblait content de la voir morte. C'était un amas dérisoire de pierres roses endormies sur une butte sablonneuse, quelques colonnes écroulées, un tombeau solitaire, puis de nouveau à perte de vue, le sable. Un désert blanc sur ses deux rives et au-delà, un désert bleu. Un oiseau passa dans le ciel, comme une pierre lancée dans un étang d'azur touchant la surface, coulant à pic et disparaissant. Papa, en le voyant, eut un regard anxieux. Je l'avais pris pour une fusée. Timothy regardait l'océan profond du ciel, essayant de voir la terre, la guerre, les villes en ruine et les hommes qui s'entretuaient depuis sa naissance. Mais il ne vit rien. La guerre était aussi lointaine, invisible que deux mouches se battant à mort sous la haute voûte d'une cathédrale silencieuse, et tout aussi absurde. William Thomas essuya son front et sentit la main de son fils sur son bras, frétillante comme une petite tarentule. Ému, il se pencha vers son fils avec un sourire rayonnant. « Ça va, Timmy ?»« Très bien, papa. » Timothy n'avait encore pas bien compris le fonctionnement de ce vaste mécanisme adulte à côté de lui. L'homme avec son grand nez aquilin, brûlé par le soleil, pelé, les yeux bleus et brillants comme les billes d'agate avec lesquelles on jouait l'été sur la terre à la sortie de l'école, les longues colonnes robustes des jambes dans les amples culottes de cheval. « Qu'est-ce que tu cherches à voir, papa ?» Je cherche la logique de la terre, la raison, le gouvernement, de la justice, la paix et le sens des responsabilités. C'est là-haut tout ça ? Non, non, je les ai pas trouvés, ils n'y sont plus. Ils n'y reviendront peut-être jamais. Peut-être s'est-on fait des idées en pensant les y découvrir. Ah ! Regarde le poisson, dit papa à l'index pointé. Un concert de cris perçants s'éleva. Les trois garçons firent tanguer le bateau en se penchant le cou tendu pour mieux voir. Ils poussèrent des O et des A. Un poisson d'argent en forme d'anneau flottait près du bateau, ondulait et se refermait comme un iris instantanément autour des parcelles de nourriture. Pour les assimiler, papa le contemplait. « Tout à fait la guerre, dit-il d'une voix calme et profonde. Elle nage, voit quelque chose à manger, se referme. L'instant d'après... « Plus de terre. »« William, » dit maman. « Excuse-moi, » dit papa. Ils se rassirent et regardèrent glisser l'eau du canal, fraîche, vive, lisse. On n'entendait que le ronronnement du moteur, le clapotis de l'eau, le bruissement de l'air ensoleillé. « Et les Martiens ? Quand on les verra ? » cria Michael. « Bientôt, peut-être, » dit le père. « Ce soir, qui sait ?»« Oui, mais les Martiens sont une race disparue, » dit maman. « Non, pas du tout, je t'en montrerai, je te le promets, » affirma papa. Timothy fronça les sourcils mais ne dit rien. Tout était bien bizarre maintenant. Les vacances, la pêche, les regards qu'échangeaient les gens. Les deux autres garçons, les yeux à l'abri de leurs petites mains, étaient déjà très occupés à guetter les Martiens le long des hautes berges de pierre du canal. « À quoi ils ressemblent ?» demanda Michael. « Tu le sauras quand tu les verras. » Papa eut un petit rire et Timothy vit jouer les muscles de ses joues. Maman était douce et mince, avec une tresse de cheveux dorés comme une couronne autour de la tête et des yeux de la couleur de l'eau profonde du canal où couraient des ombres violettes, semées de taches d'ambre. On voyait ses pensées flotter dans ses yeux comme des poissons, tristes ou gais, rapides, vives ou lentes, calmes, et parfois quand elle levait la tête dans la direction de la terre, ses yeux ne reflétaient plus rien que leur propre couleur. Elle était assise à l'avant du bateau, une main sur le bordage, l'autre sur ses genoux moulés dans sa culotte bleu marine. Une ligne bronzée soulignait à son cou velouté l'échancrure de sa blouse qui s'ouvrait comme une fleur blanche. Elle gardait les yeux fixés vers l'avant, mais n'ayant pas des choses une vision assez nette, elle se retourna vers son mari et dans ses yeux vit le reflet de ce qui les attendait au loin. Et comme son regard ajoutait à cette image réfléchit une ferme décision, son visage se détendit et elle se retourna rassurée, sachant soudain ce que lui réservait l'avenir. Timothy regardait aussi. Mais il ne voyait que le ruban violet du canal qui s'étirait dans une large vallée flanquée de collines basses et érodée jusqu'au point où il se perdait sous l'arête du ciel. Et le canal s'allongeait toujours, traversant des cités qui, secouées, eussent ballotté comme des hannetons dans un crâne desséché. 100 ou 200 villes ensevelies dans leurs rêves brûlants et frais des journées et des nuits d'été. Ils avaient franchi des millions de kilomètres pour faire ce tour en bateau, cette partie de pêche. Mais la fusée avait été armée d'un canon. C'était les vacances. Mais pourquoi toutes ces provisions, plus qu'il n'en fallait pour vivre des années, cachées maintenant à proximité de la fusée ? Les vacances. Ce voile des vacances ne couvrait pas le tendre visage du rire, mais un masque dur, osseux et peut-être terrible. Timothy ne vous pouvait pas soulever le voile, et le seul souci des deux autres garçons était d'atteindre l'un 10 ans et l'autre 8. Toujours pas de Martien, zut ! Robert cala son menton aigu dans ses paumes et regarda fixement le canal. Papa avait emporté sa radio atomique fixée à son poignet. Elle fonctionnait selon d'antiques principes. On la pressait contre l'os de la tempe près de l'oreille et elle se mettait à vibrer, chantant ou parlant suivant le cas. Papa l'écoutait maintenant. Son visage ressemblait à celui d'une de ces cités martiennes écroulées, desséchées, presque mortes. Puis il l'attendit à maman pour qu'elle écoutât à son tour. Maman entr'ouvrit les lèvres. « Qu'est-ce que... » Timothy n'acheva pas la question qu'il voulait poser. À ce moment précis, deux explosions formidables tonnèrent, presque simultanées, suivies d'une demi-douzaine de détonations moins violentes. Le visage tendu, papa lança immédiatement le canot à grande vitesse. Le bateau bondit en avant, vibrant dans toute sa coque. Robert n'en menait pas large. Michael poussait des glapissements aigus de terreur et de joie mélangés, cramponné aux jambes de maman et regardait lui filer sous le nez les torrents d'eau soulevés par l'étrave. Papa amorça un virage, coupa le moteur, engagea le canot dans une branche étroite du canal et l'arrêta sous un vieux quai de pierre croulant qui sentait la marée. Le canot heurta brutalement le quai. Ils furent tous projetés en avant, mais personne n'était blessé et papa se retournait déjà pour voir si leur sillage sur le canal risquait de révéler leur refuge. Les rides s'élargissaient à la surface de l'eau, venaient clapoter contre les pierres, puis se rejoignaient et s'entrecroisaient, accrochant les reflets du soleil. Peu à peu, tout s'effaça. Papa écoutait. Tous les autres l'imitaient. Papa haletait. Sa respiration précipitée se répercutait contre les pierres froides et humides du quai comme une grêle de coups de poing. Dans l'ombre, les yeux de chat de maman guettaient papa avec anxiété. Papa se détendit, poussa un profond sourire et se mit à rire. La fusée, naturellement, je deviens bien nerveux. La fusée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, papa ? Dit Michael. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, on a simplement fait sauter notre fusée, dit Timothy, en essayant de prendre un ton détaché. Bah, j'ai déjà entendu des fusées sauter. Bah, c'est ce qui vient d'arriver à la nôtre. Bah, pourquoi est-ce qu'on a fait sauter notre fusée ? Demanda Michael. Dis, papa. Mais ça fait partie du jeu, idiot, dit Timothy. Un jeu ? Le mot enchanta Michael et Robert. Papa l'avait arrangé pour qu'elle saute et que personne sache où on avait atterri. Si jamais ils étaient venus voir, tu piges ? Oh, chic, un secret ! Ma propre fusée qui me flanque la trouille, admit papa s'adressant à maman. Je suis vraiment nerveux. C'est absurde de penser qu'il puisse jamais arriver d'autres fusées. Sauf une, peut-être, si Edwards et sa femme réussissent à passer avec leur engin. Il colla de nouveau sa radio minuscule à son oreille. Au bout de 2 minutes, il laissa retomber sa main comme s'il lâchait un vieux chiffon. « Cette fois, c'est fini, » dit-il à maman. Le rayon atomique vient juste d'être coupé. Toutes les autres stations de la Terre n'existent plus. Il y a déjà des années qu'il n'en restait plus que 2. Maintenant, c'est le silence total et pour longtemps. « Combien de temps, papa ?» demanda Robert. « Peut-être tes arrière-petits-enfants entendront-ils quelque chose ?» dit papa. Il restait assis immobile et les enfants étaient happés au centre de sa peur, de sa défaite, de sa résignation. Finalement, il ramena le bateau dans le canal et ils repartirent dans la direction qu'ils avaient abandonnée un moment. Il était tard. Déjà le soleil baissait dans le ciel, une série de cités mortes s'étageait devant eux. Papa parlait avec douceur à ses fils. Souvent, dans le passé, il s'était montré brusque, distant, sans contact avec eux. Et maintenant, il leur caressait la tête avec un mot tendre de temps en temps et il comprenait. Mike, choisis une ville. Qu'est-ce que tu dis, papa ? Choisis une ville, petit. N'importe laquelle de celles qu'on dépasse. Très bien, dit Michael. Comment est-ce que je fais pour choisir ? Mais choisis celle que tu préfères. Toi aussi, Robert. Et toi, Tim, choisissez la ville que vous aimez le mieux. Je veux une ville avec des martiens dedans. Tu l'auras, dit papa, je te le promets. Il parlait aux enfants, mais ses yeux regardaient maman. Ils longèrent 6 villes en 20 minutes. Papa ne parlait plus des explosions. Il semblait beaucoup plus occupé à s'amuser avec ses fils et à les faire rire qu'à toute autre chose. Michael choisit la première ville qu'ils rencontrèrent, mais elle lui fut refusée parce que tout le monde se méfiait des jugements trop hâtifs. La seconde ville, non, personne n'en voulut. C'est une colonie installée par les hommes de la terre, bâtie en bois et tombant déjà en décrépitude. Timothy aima la troisième ville parce qu'elle était grande. La quatrième et la cinquième étaient trop petites et la sixième fut acclamée par tout le monde, y compris maman qui se joignit au « Mince, dis donc, tu te rends compte ?» Il y avait 50 ou 60 vastes constructions, toujours debout, des rues ensablées mais pavées, et 2 ou 3 vieilles fontaines centrifuges dont les fraîches pulsations laissaient encore des cercles humides sur les places. C'était l'unique signe de vie, l'eau jaillissant dans le soleil couchant. « Ah, ça, c'est une ville !» dit tout le monde. Papa accosta le long d'un quai et sauta sur les pierres. « Terminus, dit-il, nous sommes chez nous. À partir de maintenant, c'est ici que nous vivrons. »« À partir de maintenant ?» Michael n'en revenait pas. Il se dressa, regarda, puis se tourna en arrière, l'œil clignotant vers le point d'où ils étaient partis. « Et la fusée et le minet sauta ?»« Tiens, dit papa. » Il approcha la petite radio de la tête blonde de Michael. « Écoute ?» Michael écouta. « Bah, rien, dit-il. C'est bien ça, rien. Plus rien du tout. Plus de Minneapolis, plus de fusées, plus de terre. Michael rumina la fatale révélation et se mit à pleurer à petits sanglots entrecoupés. « Attends un peu, dit papa, l'instant d'après. Je te donne bien plus en échange, Mike. »« Mais quoi ?» Michael retint ses larmes, intrigué, mais prêt à recommencer au cas où la nouvelle révélation de papa serait aussi déconcertante que la première. « Je te donne cette ville, Mike. Elle est à toi. »«
À moi ?»
Oui, à toi, Robert et Timothy, tous les trois, pour vous, tout seuls. »
Timothy bondit hors du canot.
« Regardez les gars, dit-il, pour nous tout seuls, tout ça !»
Il jouait le jeu avec papa, il le jouait bien et jusqu'au bout. Plus tard, quand tout serait passé et quand la vie aurait repris son cours, il pourrait se laisser aller et pleurer pendant 10 minutes. Mais maintenant, c'était encore un jeu, une promenade en famille, et il fallait continuer à amuser les petits.
Mike sauta à terre avec Robert, puis ils aidèrent maman. « Attention à votre petite sœur, dit papa, et personne ne comprit que bien plus tard ce qu'il voulait dire. Ils explorèrent en hâte la grande cité aux pierres roses, chuchotant entre eux parce que les villes mortes ont une façon à elles de vous forcer à baisser la voix. Ils regardèrent le soleil se coucher. « Dans 4 ou 5 jours, dit papa tranquillement, je retournerai là-bas où était la fusée, je prendrai les provisions cachées dans les ruines et je les ramènerai. Et je me mettrai à la recherche de Bert Edwards, de sa femme et de ses filles. »«
Des filles ?» demanda Timothy. « Combien ?»«
4. »« Eh ben, je prévois déjà des complications pour plus tard, dit maman, hochant lentement la tête. »«
Des filles !» Michael fit une grimace et ressembla à une antique figure martienne de pierre.
« Des filles ?»«
Et ils arriveront aussi en fusée ?»«
Oui, s'ils réussissent. Les fusées familiales sont faites pour aller dans la Lune, pas pour sur Mars. Nous avons eu beaucoup de chance de passer. »«
Et où avais-tu trouvé la fusée ?» murmura Timothy pendant que les autres garçons couraient en avant.
« Je l'avais mise en sûreté, je l'avais cachée pendant plus de 20 ans, Tim. J'espérais ne jamais être obligée de l'utiliser. Je suppose que j'aurais dû la donner au gouvernement pour la guerre, mais je pensais toujours à Mars.
Et au pique-nique ?
Voilà. Je te dis ça entre nous. » Quand j'ai vu que tout était perdu sur la Terre, après avoir attendu jusqu'au dernier moment, je vous ai embarqué. Bert Edwards avait aussi une fusée cachée, mais nous avons décidé qu'il serait plus sûr de ne pas partir ensemble au cas où on essaierait de nous abattre.
Mais pourquoi as-tu fait sauter la fusée, papa ?
Pour ne jamais pouvoir repartir. Et puis si jamais quelques-uns de ces hommes méchants viennent sur Mars, ils ne sauront pas où nous sommes.
Ah, c'est pour ça que tu regardais tout le temps en l'air ?
« Ouais, c'est idiot. Jamais ils ne nous suivront ici. Ils n'ont plus rien pour le faire. Je suis trop méfiant, c'est tout. »
Michael revint en courant.
« C'est vraiment notre ville, papa ? Toute cette sacrée planète et à nous, les petits, toute cette sacrée planète ?»
Il se tenait immobile, debout, roi de la montagne, empereur de la planète, souverain de tous les horizons, monarque et président absolu, essayant de comprendre ce que signifiait la possession d'un monde et ses dimensions, ses limites. La nuit tombait rapidement dans l'air ténu. Papa les laissa sur la place près de la fontaine jaillissante, descendit au canot et en revint avec une pile de papiers dans ses larges mains. Il fit un tas des papiers dans une vieille cour et les enflamma. Pour se réchauffer, ils s'accroupirent en riant autour du feu et Timothy regardait les petites lettres sauter comme des bêtes affolées quand les flammes les touchaient et les dévoraient. Le papier se recroquevillait comme une peau de vieillard et le feu encerclait des milliers de mots. « Bon de défense, diagramme du commerce, 1999, le préjugé religieux, un essai, la science de la logistique, problème de l'unité panaméricaine, cours de bourse pour le 3 juillet 1998, World Digest. » Papa avait insisté pour amener ses papiers dans ce but. Assis devant le feu, il les y jetait un à un avec satisfaction et expliquait à ses enfants le sens de son geste. Il est temps que je vous dise quelques petites choses. Je ne crois pas que c'était bon de vouloir vous les cacher, je ne sais pas si vous comprendrez, mais il faut que je vous parle, même si certains points vous échappent. Il lâcha un feuillet dans le feu. Je brûle un mode d'existence, tout comme ce mode d'existence est en train de brûler sur la Terre en ce moment même. Excusez-moi si je vous fais un discours, après tout, je suis un ancien gouverneur d'État, mais j'étais honnête et ils ne me l'ont pas pardonné. La vie sur la Terre ne s'est jamais organisée pour donner grand-chose de bon. La science a été trop loin, trop vite, et les gens se sont perdus dans un désert mécanique, comme des enfants qui fabriquent des jolis objets, des trucs ingénieux, des hélicoptères, des fusées. Ils ont déraillé en voulant perfectionner les machines et pas la façon de les faire marcher. Les guerres sont devenues de plus en plus terribles et finalement, elles ont tué la Terre. Voilà ce que veut dire le silence de la radio. C'est pour cette raison que nous nous sommes sauvés. Nous avons eu de la chance, il ne reste plus de fusées. Il est temps que vous sachiez que nous ne sommes pas venus pour aller à la pêche. Je ne veux plus vous raconter d'histoire. La Terre n'existe plus. Il n'y aura plus de voyage interplanétaire pendant des siècles, peut-être jamais plus. Mais ce mode d'existence a été une faillite et s'est étranglé avec ses propres mains. Vous êtes jeune, je vous répéterai ça tous les jours jusqu'à ce que ça rentre. Il s'arrêta pour jeter d'autres papiers dans le feu. Maintenant, nous sommes seuls, nous et une poignée d'autres qui atterriront dans quelques jours. Assez pour recommencer, assez pour tourner le dos à la terre et prendre un nouveau point de départ. Le feu s'aviva comme pour appuyer son exposé. Tous les papiers sauf un étaient maintenant consumés. Toutes les lois et toutes les croyances de la terre formaient un amas de cendres brûlantes qu'un coup de vent emporterait bientôt. Timothy regarda le dernier papier que papa lança dans le feu. C'était une carte du monde. Elle se tordit, se recroquevilla, s'enflamma et s'évanouit comme un papillon noir et brûlant. Timothy s'éloigna. « Maintenant, je vais vous montrer les Martiens, » dit papa. « Venez tous, toi aussi, Alice. » Il la prit par la main. Michael se mit à sangloter. Papa le prit dans ses bras et ils descendirent vers le canal au milieu des ruines. Le canal, où demain ou le jour suivant, leur future femme, encore petite fille, toujours prête à rire, arriverait en bateau avec leurs parents. La nuit les enveloppait et les étoiles s'allumaient au ciel. Mais Timothy ne trouvait pas la terre. Elle était déjà couchée. C'était un profond sujet de réflexion. Un oiseau de nuit cria dans les ruines sur leur passage. « Votre mère et moi essaierons de vous apprendre, » dit papa. « Nous échouerons peut-être, j'espère que non. Nous avons vu et appris bien des choses. Nous avions projeté ce voyage il y a bien longtemps, avant votre naissance. Même s'il n'y avait pas eu de guerre, je crois que nous serions venus sur Mars pour nous y installer et y trouver notre propre mode de vie. » Il aurait fallu un siècle de plus avant que Mars soit réellement empoisonné par la civilisation de la Terre. Maintenant, bien sûr, ils atteignirent le canal. Il était long, frais et rectiligne. Il miroitait dans la nuit. « J'ai toujours voulu voir un Martien, » dit Michael. « Où sont-ils, papa? Tu m'avais promis. » « Les voilà, » dit papa. Il souleva Michael sur son épaule et pointa le doigt vers le bas. Les Martiens étaient là. Timothy se mit à frissonner. Les Martiens étaient là dans le canal, réfléchis dans l'eau. Timothy, Michael, Robert, maman et papa. Pendant un long, long moment de silence à leurs pieds, les Martiens soutinrent leurs regards dans la moire ondulante de l'eau.
I'm not afraid to die.
Bien, eh bien, c'était notre dernière chronique de l'été, notre dernière chronique martienne.
Tout à fait.
C'est un petit peu noir tout ça, non ?
Oui, en fait, non, parce qu'il y a de l'espoir quand même.
Un peu désespéré quand même.
Ils attendent d'autres familles qui vont arriver.
Oui. Mais puis, si Ray Bradbury écrivait aujourd'hui, ce serait peut-être encore plus noir.
Peut-être.
Ouais. On exacerbe encore plus ses sentiments.
Mais enfin, il y a aussi l'idée, quoi que c'est un peu tôt pour la guerre froide, mais quand même, il y a ça dans cette période.
Oui, ça a été écrit en pleine guerre froide.
Voilà.
Ouais. Ah oui, il parle de guerre atomique. Alors maintenant, on ne craint plus du tout ça de nos jours.
Non, tu confonds, il parle de montre atomique ou de radio atomique.
On n'a plus peur de la bombe, peut-être qu'on devrait quand même. Mais on a plus peur de finir cuit dans un bain de CO2.
Mais de toute façon, je ne veux
pas
te faire
une émission littéraire qu'on devrait faire, c'est une émission philosophique.
Je ne veux pas te faire de peine, mais je crois qu'on aura tout. On cuira, il y aura la bombe, on s'entretuera, tout ira bien. Sauf qu'on n'a pas de moyen d'aller sur Mars pour se sauver.
Ah non. Pas avant un certain temps.
Bon, eh bien, chers auditeurs, on va vous quitter sur cette fin du monde.
Et surtout, allez lire Ray Bradbury, parce qu'on ne vous en a lu qu'une petite partie. Et n'oubliez pas que Ray Bradbury, c'est aussi lui qui a écrit Fahrenheit 451, qui a été adapté au cinéma par François Truffaut.
Ah oui, c'est vrai, oui. Maintenant que tu le dis, ça m'avait.
À bientôt.
À bientôt. À bientôt. Nous vous retrouvons
à partir de la rentrée de septembre, avec nos lectures habituelles. Dans nos émissions habituelles, tout à fait.
Très bien. Bonne fin d'été à tous. Au revoir.
Bonne fin d'été, au revoir.
Au revoir.